Bonjour, je suis Alain Hérong-Mouchige. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr. Michel Mouvoudi, médecin avec une grande expérience de près de 25 ans dans la santé publique, promoteur du groupe SID, entendez compétences, intelligence, développement, expertise, solidarité. Il est spécialiste principal en santé à la Banque mondiale. Il est auteur et écrivain de plusieurs articles. Dr. Michel Mouvoudi, c'est une grande expérience tant sur le plan national qu'international. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour, cher Alain. Plaisir de vous revoir.
Le plaisir est partagé. Comment allez-vous?
Non, je vais très bien. En tout cas, très très bien. Ben, en dépit des efforts collectifs que nous faisons pour faire avancer la République, mais je vais très bien. En tout cas, je vais très bien.
Oui. Alors, Grand Témoin, c'est le parcours de toute une vie, mais une vie aussi riche que la vôtre, ce n'est pas en 30-40 minutes qu'on va en parler. Mais pour commencer, quel type d'enfant étiez-vous?
C'est une belle question que j'aimerais bien poser à ma mère, encore une fois. Mais chaque fois que j'ai eu à l'entendre parler, elle dit souvent que j'étais parmi les enfants qui lui ont pas causé beaucoup de problèmes. Ça, c'est ce que j'entends de ma mère, parce que elle sait comment j'ai vécu. Mais aussi, elle dit toujours que j'étais très passionné des études. J'aimais beaucoup étudier. Déjà très jeune, j'étais président d'une association des intellectuels de l'école. J'avais un petit journal que je sortais à l'école. J'ai me rappelle que j'avais gagné un petit prix de dessin à l'école. Donc j'étais vraiment un garçon studieux, très engagé dans la formation. J'étais beaucoup religieux aussi parce que en fait j'ai passé beaucoup de temps à la paroisse Saint-Paul de Lubumbashi, où j'étais scout et j'étais kiro, et donc j'ai servi beaucoup autour de l'église aussi. Voilà, donc c'est un peu ça qui résume ma petite enfance.
Vous n'avez pas causé beaucoup de problèmes à la maman, à la famille, mais est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote d'enfance qui vous a marqué?
Une anecdote d'enfance qui m'avait marqué, bon, je me rappelle une fois, mon père était infirmier, paix à son âme, il nous a quittés il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Alors, il avait un petit dispensaire à la maison, c'était sa petite boîte qu'il utilisait pour donner quelques soins de base aux familles du quartier. Et un jour, je me suis permis d'entrer dans son petit dispensaire, m'asseoir et commencer à soigner les gens. Et donc, je faisais entrer mes frères, les amis de mes frères, de mes sœurs.
Mais tout en jouant.
Et je prenais n'importe quel médicament que je voyais sur sa table. Soit je le faisais boire, soit je...
Alors, leur risque et péril.
Tu peux t'imaginer, tu prends la gentamicine, tu mets sur une cuillère, tu dis à quelqu'un, allez, tu bois ça. Et il m'a trouvé en train de faire ça. Alors, tu peux imaginer la suite. Donc, il m'a bien frappé ce jour-là. Parce qu'il pouvait pas s'imaginer que je pouvais entrer dans son dispensaire et prendre des médicaments au hasard, commencer à les donner aux amis. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que je suis devenu médecin.
Oui, entre-temps, il ne savait pas que c'était prémonitoire.
Exactement. Et donc, c'était rocambolesque, c'était grave, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais j'avais tous les petits du quartier. Chacun recevait, en tout cas, le médicament que je voyais devant moi. Voilà, ça, c'est une belle histoire que je n'oublierai jamais. Je me rappelle ce jour-là, il m'avait beaucoup frappé parce qu'en fait, je pouvais créer des dégâts.
Vous donniez n'importe quoi. Mais
non, dès que je te vois, ben Alain, ok, je regarde, je vois la pénicilline, elle montre ta main, prends de l'eau, tu bois. L'autre entre, je regarde comme ça, je vois. Imagine-toi si je pouvais donner du microchrome ou bien...
Ou de l'alcool, dénaturé ou...
Tu t'imagines, je n'oublierai jamais ça. Dieu merci, très rapidement, quand il est arrivé, il m'a trouvé. Alors il m'a frappé sérieusement, il m'a corrigé. Il m'a dit, il faut jamais faire ça, tu peux tuer quelqu'un. Eh ben voilà, peut-être c'était ça le premier exercice de l'art de guérir pour
exactement,
moi.
Exactement, parce que quand on n'est pas un bon médecin, on devient un assassin.
Exactement, exact, c'est toujours l'inverse.
Alors, quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit?
Alors, des amis d'enfance que j'ai à l'esprit, il y a un ami qui s'appelle Benoît Kyungu. En fait, c'était l'ami avec qui je passais beaucoup de temps parce qu'il était sur mon avenue. On faisait les poteaux, comme on appelait à l'époque. Donc, vous sortez, vous allez vous mettre au coin et vous regardez qui passe, vous causez.
Surtout les jeunes filles.
Oui, et surtout les jeunes filles à l'époque. Et vous faites de l'analyse de tout un chacun. Vous parlez de ce que chacun fait, ainsi de suite, dans le quartier. J'ai aussi un ami. Il est devenu ingénieur, mais je n'ai plus beaucoup d'écho de lui. Il s'appelait Ilunga Ilo. Un garçon qui était très brillant, studieux, mais finalement, je n'ai plus de cette traces.
Pas de bagarre dans l'enfance, le football,
alors,
le sport.
Ça c'était, tu connais les phrasies. On faisait des jeux à chaque vacances, on barrait la route, on mettait les poteaux et on jouait jusqu'à ce qu'un véhicule arrive, on arrête de jouer. D'abord j'étais organisateur de ces genres d'événements sur l'avenue. Les quartiers étaient en ébullition de matchs de football. Après, je n'habitais pas loin des pères salésiens, les pères de Don Bosco. Eux, ils organisaient aussi beaucoup de compétitions. Et donc, j'étais souvent là avec mon équipe et j'avais une petite équipe de football qui s'appelait Saint-François de Sales. Je n'oublierai jamais. Et notre première compétition, on était sorti deuxième, ça veut dire on était en finale, mais on n'avait pas remporté la coupe. Donc j'aimais bien le sport et j'ai passé beaucoup de temps dans la paroisse, dans le sport, dans la lecture. Et donc j'ai construit vraiment ma petite enfance, j'ai construit ma vie autour de ces genres d'activités. Et je comprends pourquoi aujourd'hui c'est l'exaltation quasi de tout cela.
Vous habitiez non loin des pères salésiens, le parcours scolaire comment se présente-t-il ?
Alors j'ai commencé l'école maternelle chez les sœurs de Usoke. Usoke, c'est au carrefour à Lubumbashi, non loin du quartier industriel. Après, j'ai rejoint une école de la Gécamines qui s'appelait Mampala, mais c'était tellement loin de la maison que très rapidement, je rejoins Madini, où j'ai carrément fait toute l'école primaire. J'ai terminé, j'ai eu mon certificat. Je suis parti à l'école secondaire, j'ai eu mon diplôme d'état en biochimie. Et après, je suis parti à l'université pour commencer la médecine. Il faut dire que mon parcours scolaire, était marqué par d'abord l'engagement pressant, la frénésie à pouvoir bien étudier, mais aussi j'étais très passionné par le dessin. Je suis un grand dessinateur, un peintre, parce que je m'amusais aussi à utiliser des pinceaux. Et voilà, c'était ça. Donc c'était des écoles de la Gécamines, les belles écoles de la Gécamines. Tu te rappelles, la récréation, on vous donnait du lait, on vous donnait des biscuits. On avait des très bons enseignants et on était toujours les meilleurs aux concours nationaux. Voilà, donc l'école, c'est, comme j'aime bien le dire, et Nelson Mandela le répète, l'école c'est l'éducation, c'est l'instruction. Sans école, on ne serait pas ce qu'on est. Donc hommage à tous mes enseignants que je retrouve encore pour certains qui sont encore en vie, mais hommage à toutes ces personnes, tous ces gens qui ont donné de leur temps à faire de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. En tout cas, on ne serait rien sans nos enseignants, on leur doit tout. Alors,
le passage à l'université, le choix de la médecine, vous parliez tout à l'heure du papa qui était infirmier. Est-ce que vous avez été influencé par ce choix-là?
Je pense que j'ai été influencé par ce choix parce qu'en fait, il avait le devoir de m'amener avec sa petite moto à l'école. Et parfois, quand il avait des gardes à l'hôpital, Sendwe, un grand hôpital de Lubumbashi, il était obligé d'aller avec moi faire la garde pour que très tôt matin, il m'amène à l'école. Parce qu'il pouvait pas quitter la garde, venir me récupérer à la maison et m'amener à l'école.
Et donc, la garde avait déjà commencé il y a très longtemps.
Moi, j'ai commencé à faire les gardes à l'hôpital avec mon père, déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans. Imagine-toi. Wow. Quand j'étais encore à Mampala, donc c'était très loin de la maison. Et donc, quand j'étais à la garde, j'assistais à tout ce qui se passait, comment on amenait les urgences, surtout qu'il travaillait au bloc opératoire. Vous voyez, donc il était en chirurgie, donc je pouvais bien voir les blessés. Parfois, il me faisait visiter le bloc, la stérilisation. Et quand il n'a rien à faire, alors j'étais dans sa salle de garde où je dormais, où je lisais. Et j'ai commencé à m'habituer vraiment de l'environnement de l'hôpital. Imagine-toi, Alain, donc ma vie c'était, tu quittes l'école à midi, mais 16 heures, tu te laves, tu prends ton sac, tu prends ton uniforme, tu pars à l'hôpital. Tu restes avec le papa, tu dors à l'hôpital, tu sors le matin et tu vas à l'école, ainsi de suite. Donc quand il n'avait pas de garde, évidemment, ce n'était pas ça le cycle. Et j'ai commencé à aimer voir la blouse blanche, j'ai commencé à aimer voir la tenue des chirurgiens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait beaucoup de chirurgie, parce que j'aimais toujours cette tenue verte, j'aimais toujours ce moment où on ouvre le ventre de quelqu'un. Et pour ceux qui le savent d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de chirurgie et j'avais toujours cette passion.
Et vous habituez à la douleur de la piqûre?
Oui, à la douleur de la piqûre. Donc c'était inéluctable, hein. C'était inéluctable. On aimait bien porter des soins en piquant, mais surtout le bistouri. J'aimais beaucoup le bistouri. Donc ces jeux de pouvoir déchirer un peu la peau, j'aimais bien voir. C'est vrai que c'est toujours effrayant, mais avec le temps, j'ai commencé à beaucoup aimer le bistouri et c'est excellent.
L'université, c'est un monde très passionnant. Exactement. Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de votre passage à l'université?
Alors, trois souvenirs. Le premier, c'est la souffrance. À l'époque, chez nous, Alain, c'est aujourd'hui où je vois 600 personnes finir les études. Nous, on avait commencé en premier gradué à la médecine à 1620 étudiants. Et t'imagines, on a terminé autour de 9 ou de 10, tout simplement. C'était très compliqué. Et je peux t'avouer que c'était les moments les plus durs de la vie parce que, d'abord, à l'époque, c'était vers les années 1994-95, par là, c'était pratiquement autour de la période de la rupture de la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc à l'époque, le Zaïre.
Fini la bourse, les avantages.
Et la Gécamines, qui était la seule société financière de la ville, parce que quasi la majorité des habitants de Lubumbashi, Kolwezi, partout Likasi, vivaient, n'est-ce pas, de la Gécamines, des mines de la Gécamines. Et la crise était au top. Je te dis, je me rappelle que j'ai mangé le foufou avec de l'eau salée et prendre le chemin de l'université. Je me rappelle que j'ai mangé le foufou avec les arachides, prendre le chemin de l'université. Ça, c'était vraiment le premier souvenir. C'était difficile, mais il fallait étudier. Le deuxième souvenir, c'est qu'en fait, on s'était beaucoup mutualisé. On avait des groupes d'études. J'ai toujours une mémoire forte, une mémoire positive des amis avec lesquels on se mettait en cartel. Alors, toute notre vie s'était étudiée. On allait parfois passer nuit dans une petite école du quartier pour ne pas dormir, parce que quand tu restes seul, le sommeil t'emballe, et donc on devait rester étudier toutes les nuits, on devait rester étudier tous les week-ends. C'était dur pour tout étudier, c'était compliqué, il fallait vraiment se sacrifier pour finir médecin, et c'était mon rêve. Je voulais toujours montrer à ceux qui n'avaient pas cru en moi qu'en fait j'allais devenir médecin un jour. Et le troisième souvenir, c'est le jour où j'ai terminé. C'était vraiment
le couronnement de
d'un parcours
efforts.
Très difficile. Ma mère, à qui je rends hommage, qui vendait des frétins et qui vendait du poisson salé pour compléter nos frais d'études. Je me rappelle que c'était très difficile. Ce jour-là, j'ai pleuré en fait quand les autres était en train de danser. Moi, j'ai pleuré durant toute la collation parce que tout simplement, je voyais la souffrance avec laquelle j'ai étudié, mais aussi j'avais eu beaucoup de défis, et beaucoup m'ont confirmé que, à l'époque, beaucoup m'avaient dit, écoute, tu ne vas jamais finir la médecine, c'est difficile, ce sont les enfants des médecins qui y arrivent, en plus, tu es enfant d'un infirmier, d'une femme qui n'a pas étudié. Et quand je voyais tout ça, et je me voyais devant, avec mon diplôme, c'était que des larmes. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui me tient beaucoup à l'esprit, et c'est ça qui motive toute cette passion que j'ai à donner, à transmettre, parce que finalement, le sacrifice de soi finit toujours par vous amener à votre vision.
Et pourquoi le choix de la santé publique, pas de l'ophtalmologie, pas de la gynécologie ou de la pédiatrie, par exemple?
Alors, les événements se sont, je peux dire, enchevêtrés. Je termine ma médecine, je me dis, ok, je vais faire une spécialisation en chirurgie. Je commence d'abord mes premières pratiques à l'hôpital militaire Kanvangu. En fait, à Lubumbashi, un grand hôpital militaire, bénévolement, au lieu de rester tourner les pouces en attendant, parce que Alain, nous, quand on finissait, tout le monde allait en Afrique du Sud, tout le monde allait au Botswana, en Zambie, parce qu'il y avait une pénurie de médecins. Donc vous arrivez dans les 48 heures, on vous engage. Alors moi, je n'avais même pas l'argent pour payer le bus, parce que quand j'ai demandé à ma mère, j'ai besoin de $100 pour aller prendre le bus, aller sur Ndola, Lusaka, elle me disait, mais tout ce que j'ai ici, ça ne fait même pas $20, donc il fallait rester. Donc en fait, je suis resté, j'ai commencé à donner un coup de main à l'hôpital militaire Kanvango. C'est là que j'apprends vraiment de la chirurgie. Je vais affûter ma main en chirurgie, et finalement, je décide d'aller à l'intérieur. Quelques mois après, j'ai dit non, la vie devenait difficile, travailler gratuitement chez les militaires. Je m'en vais, je vais travailler à l'intérieur et je vais rejoindre une zone de santé rurale, Yangala, à la frontière, vraiment vers l'Angola. Et je commence à m'occuper d'un hôpital que j'avais trouvé, vide, dépouillé de tout. Et c'est là que, finalement, à côté du fait que je travaillais comme médecin d'hôpital, je devrais aussi gérer la santé publique, ça veut dire l'hygiène, la vaccination. Et j'ai commencé à me donner à la fois aux activités cliniques, ça veut dire j'étais médecin de l'hôpital, mais aussi aux activités de prévention, aux activités de santé publique. Et c'est là que j'ai finalement excellé, parce qu'on a compris que j'avais aussi des talents pour tout ce qui est communication, tout ce qui est vaccination, lutte contre les épidémies, ainsi de suite. Et j'ai échelonné tous les niveaux de la pyramide sanitaire, parce qu'en fait, cet hôpital que j'avais trouvé dans un état délabré, sans médicaments, sans pinces, avec les moyens de bord, nous avons commencé à équiper l'hôpital, à réhabiliter l'hôpital. Et ben, c'est comme ça que finalement, je me suis lancé sur cette filière-là.
Vous l'avez dit, hein, 30 juillet 2002 à décembre 2002, médecin traitant à l'hôpital militaire Kanvangu. Décembre 2002 à août 2003, médecin traitant à l'hôpital général de référence de Yangala. Août 2003 à août 2004, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Yangala, puis de Masuika. Beaucoup de jeunes médecins évitent l'intérieur du pays, évitent d'aller en province. Mais de fil en aiguille, vous quittez les provinces ou l'intérieur de la province, de l'intérieur du pays. Comment vous arrivez dans le secteur international? Voilà. Parce qu'on le verra, c'est beaucoup d'expérience avec l'Union européenne,
USAID,
avec
l'USAID,
le
SHD,
voilà, Corded et tout ça.
La Banque mondiale aujourd'hui.
La Banque mondiale aujourd'hui. Comment vous arrivez à ça?
Exactement. Alors ça, c'est toujours la leçon que je lègue aux générations présentes et futures. C'est de dire, d'abord, l'intérieur est une vraie école. Vous savez, lorsque vous terminez en médecine, vous avez tout sur papier. Vous avez cette intelligence intellectuelle, vous avez les dessins d'anatomie, vous avez correctement les schémas de la circulation sanguine. Mais en fait, quand vous allez à l'intérieur, Alain, c'est là que vous palpez la réalité.
Vous tombez dans la pratique.
Exactement. D'abord, moi j'ai trouvé une population, là où j'étais, très démunie, très pauvre. À l'époque, en fait, c'est quand il y avait la guerre en Angola avec Savimbi. Et donc, la situation était très précaire de ce côté-ci. Et donc, ça m'a permis de pratiquer. Et donc, c'est pourquoi j'ai toujours demandé aux jeunes qui terminent qu'en fait, en réalité, quand vous terminez, commence la formation. En réalité, c'est quand vous commencez maintenant à vous former. Et j'ai aimé le travail avec patients. Parce que quand j'arrivais à l'hôpital, Alain, les gens me donnaient à moi. Vu l'état dans lequel j'avais trouvé cet hôpital, il y a des gens qui me disaient, en tout cas, il va pas traîner, il va partir. Tu t'imagines que je n'avais même pas de maison où habiter en tant que médecin de l'hôpital. J'étais d'abord chez les prêtres parce que il n'y avait pas où rester. Et j'ai commencé à travailler. Je te raconterai l'histoire lorsque je vais sortir mon énième livre sur mon expérience en santé publique, les prismes du système de santé congolais. C'est un livre que je suis en train de finaliser. Et donc, j'ai commencé à aimer le travail que je faisais en me disant, comment je peux acheter une pince? Comment je peux acheter une mousse? Donc, je faisais tous les calculs. Et là, mon premier salaire, j'aime bien le dire, quand j'ai commencé à cet hôpital, il était de $40 par mois. $40.
Seulement.
Seulement. Donc, et $40, c'était net pour pouvoir payer des conserves, payer les allumettes, les bougies, du savon. Donc, c'était
le
ça.
Le strict minimum.
Le minimum. C'est, j'ai mes bougies, j'ai mon savon et mes piles. À l'époque, j'avais une petite radio et je suivais beaucoup la Voix de l'Allemagne. C'était vraiment l'unique chaîne que je suivais. Et j'ai commencé vraiment à m'impliquer, à aimer la population. Et ça, c'est important que, comme message, aimez ce que vous faites, aimez le travail que vous faites. C'est comme ça que vous allez avoir ce grand travail que les autres cherchent. Et donc, j'ai commencé à faire ce travail et je suis allé d'échelon en échelon. Imagine-toi, un jour, l'évêque du diocèse, parce que c'était un hôpital diocésain, il arrive, il trouve que l'hôpital changeait. J'ai acheté un groupe électrogène, tout petit groupe là. À l'époque, on les appelait les petits groupes tigères. J'ai commencé à allumer l'hôpital. J'ai acheté les rideaux. Je monte médecin directeur. Après, comme tu l'as vu, je monte médecin chef de zone de santé. Après, je monte médecin chef de district, parce qu'à l'époque, on avait encore les districts. Après, grâce à mon implication dans la lutte contre la maladie du sommeil, la coopération technique belge va me proposer pour devenir médecin coordonnateur de la lutte contre la maladie du sommeil. Donc je vais rester là-bas et ici hommage au directeur Kandé qui a été notre directeur à l'époque et qui a fait beaucoup, qui nous a coaché dans ce domaine. Et je deviens médecin au niveau provincial où je vais gérer plusieurs bureaux, y compris quelquefois j'ai été médecin inspecteur provincial à l'époque et jusqu'à être au sommet de la pyramide sanitaire dont j'étais au secrétariat général. Et donc un parcours vraiment de bas vers le haut. C'est pour dire encore une fois de plus la patience, l'engagement, n'est-ce pas, l'assiduité, l'amour du travail que vous faites, peu importe ce qu'il est, en fait, vous amène au sommet. Et c'est après que les organisations internationales ont commencé à repérer, pas mon nom, mais ils ont repéré mes œuvres parce que j'avais un témoignage intéressant auprès de la population, auprès des visiteurs qui venaient dans ma zone de santé, dans mon hôpital, en disant, mais ce garçon, il organisait, il était à temps avec ses rapports, il avait des tableaux de bord affichés au mur. Et c'est comme ça que je vais aller commencer mes premières expériences avec Cordaid, avec l'Agence européenne de développement et de santé. Je vais être recruté par MSH avec l'USAID. Je vais travailler pour ERA et je vais rejoindre la Banque mondiale en 2013, je pense, oui. Et à la Banque mondiale, j'ai aussi gravi plusieurs échelons parce que quand je suis arrivé à la Banque mondiale, je n'étais que consultant. Ben aujourd'hui, je suis task team leader. En fait, c'est ce qu'on appelle gestionnaire de projet et je suis spécialiste principal en santé, sans compter tout le travail de recherche que j'ai eu à effectuer à travers les universités et ainsi de suite.
Voilà. Aujourd'hui, quel état des lieux pouvez-vous faire de la santé publique en RDC?
Non, il faut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment à une période très critique. Moi, lorsqu'on parle de la santé publique, Alain, il faut regarder les résultats. Il ne faut pas regarder les process. Tu sais que, je pense, au mois d'avril, on a publié les résultats de ce qu'on appelle les enquêtes démographiques et de santé. Ce sont des grosses enquêtes que nous organisons chaque 5 ans qui montrent l'état de santé de la population. Je peux te dire que tous les indicateurs sont au rouge quasi. Quoi. Donc, la mortalité maternelle, par exemple, elle n'a pas du tout baissé. Ok? Elle est aujourd'hui encore très élevée. On est à, je crois, 746 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, imagine-toi dans ce pays ici, pour 100 000 naissances vivantes, il y a 746 femmes qui meurent. La mortalité infantile, elle est très élevée. On a remarqué, par exemple, que la malnutrition chronique a augmenté. Le nombre des enfants qui n'ont pas reçu une seule dose de vaccin a augmenté. Je n'ai pas tous les chiffres avec moi. Mais bref, le reflet d'un système de santé, c'est pas ces ateliers que nous tenons. Le reflet d'un système de santé, c'est pas les banderoles que vous voyez. Le reflet du système de santé, c'est la santé de la population qui se mesure dans la population. Et je vous renvoie aux enquêtes EDS 2023-2024. Vous allez vous rendre compte que les indicateurs de santé, en gros, sont très mauvais. Les enfants complètement vaccinés sont en train de diminuer. Ce qui explique, n'est-ce pas, la flambée des épidémies que vous voyez. Regardez, on est en plein choléra. Mais le choléra, c'est le symbole d'une hygiène qui n'est pas organisée. N'est-ce pas, quand vous regardez aujourd'hui la qualité de l'hygiène à travers nos villes, ne soyez pas surpris de voir qu'il y a le choléra partout. Ne soyez pas surpris qu'on ait la malaria partout. Parce qu'en fait, les anopheles, ce sont des vecteurs qui pilulent autour de tout ce qui est insalubrité et autres. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une situation critique. Mais maintenant, des efforts sont en train de se faire. Et je crois qu'ils sont encore insuffisants. Moi, je peux te donner quelques chiffres. La dépense en santé, par exemple, elle a doublé. Aujourd'hui, nous sommes à 28 dollars par habitant par an en dépenses en santé. Ok? Versus il y a 10 ans, on était autour de 14-15 dollars par habitant par an. Ça veut dire qu'en fait, on dépense aujourd'hui plus qu'avant. Mais de manière inversée, les indicateurs de santé ne sont pas bons. Ça veut dire qu'il y a là un questionnement que nous devons nous faire sur la qualité de la dépense en santé, la qualité de la gestion. Ça, c'est très important. Et même plus loin, lorsque vous voyez la riposte contre les épidémies, je prends toutes les épidémies de la maladie à virus Ebola, et là je rends un hommage au professeur Jean-Jacques Mouyembe avec qui nous avons beaucoup travaillé parce que j'ai eu à gérer quand même 8 à 10 épidémies de la maladie à virus Ebola. Récemment, on a tous assisté à la Covid-19. Quand vous regardez la manière dont notre système de santé réagit, c'est toujours en retard. On a un système de réaction et non pas d'action. Voilà. Et donc, tout ça, ça nous pousse à travailler sur un vrai renforcement du système de santé. Comme j'aime bien le dire, même lorsqu'on parle de la couverture sanitaire universelle, en fait, lisez l'histoire, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé dans le monde, c'est très complexe et ça relève d'un grand leadership, ça relève d'un engagement collectif, c'est la vision du chef de l'État, mais c'est notre vision, parce que c'est une vision partagée. Nous devons nous l'approprier et ça exige de bien lire la complexité de ce système, surtout dans un pays vaste comme la RDC, où les provinces sont des pays quasi, quoi. Donc, quand vous voyez, et ces provinces ont des profils très différents. Voilà. Donc, je pense que on a beaucoup de défis et on a aussi beaucoup d'efforts à faire si nous voulons demain diminuer la charge morbide et la mortalité dans notre population.
Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, grand témoin reçoit aujourd'hui Dr Michel Mouvoudi. Nous sommes en train de le voir, c'est beaucoup d'expérience sur le plan international et sur le plan local. 25 ans d'expérience dans la santé publique, promoteur du groupe CID, entendez compétences, intelligence, développement, expertise, solidarité, spécialiste en santé à la Banque mondiale, auteur et écrivain de plusieurs articles. Dr Mouvoudi, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la mortalité maternelle élevé, mais entre-temps, vous êtes copromoteur de l'initiative de la maternité gratuite.
Exact.
Aujourd'hui, comment cette idée avait germé?
Alors, il faut que je vous dise qu'au sein du groupe de la Banque mondiale, je m'occupais d'un projet qui s'appelle le projet de développement du système de santé. On appelait le PDSS. Vous pouvez regarder, c'est un projet qui a réalisé beaucoup d'investissements dans le cadre de la santé maternelle infantile. C'est un projet du gouvernement qui a été financé par la Banque mondiale, mais qui a clôturé. Alors, juste après la Covid-19, vers les années 2020-21, j'ai vu comment est-ce que la Covid-19 avait impacté les services de base, donc notamment les services maternels infantiles. Un jour, je fais un voyage, c'était à Kikwit, je visite les centres de santé, je me dis, mais avec les moyens qu'on a, pourquoi ne pas imaginer carrément subventionner totalement l'accès des femmes aux soins de santé d'abord, mais aussi à la maternité. Parce que je voyais comment est-ce que les structures ne pouvaient plus tenir. Et on a commencé une première initiative avec le PDSS. On a discuté avec le ministère de la Santé. On a dit, mais écoutez, on y va parce que le PDSS est un projet du gouvernement. C'est comme ça que l'initiative a germé. Et ici à Kinshasa, il y avait 8 zones de santé qui avaient expérimenté cette pratique. En fait, je l'appelle de l'accès de la femme au service de santé de base. Et en évoluant, on a étendu cela dans d'autres provinces. On était à plus de 10 provinces qui pratiquaient cela. Mais on a vu que finalement, il y a eu une augmentation fulminante des femmes qui accouchaient au centre de santé ou à l'hôpital. C'est là qu'on a compris qu'en fait, que la mortalité maternelle qu'on avait était liée au fait que les femmes accouchaient à domicile. Parce que la mortalité maternelle se calcule dans la population. Et donc, les mamans accouchent à domicile et donc, le risque de décès était très élevé. Donc, en levant la barrière financière, donc on permettait un afflux des femmes en milieu hospitalier où les accouchements pouvaient se passer. Mais il faut quand même avouer que on a constaté qu'il y avait un défi, c'était le défi de la qualité. Parce que lorsque vous parlez d'accoucher dans un hôpital, ça veut dire que vous devez avoir un personnel bien formé, vous devez avoir un équipement. Et rapidement, on s'est encore retrouvé, on a reprogrammé des ressources pour commencer à construire et à équiper des maternités. Alors, on en a fait plus de 400. Vous voyez les images, mais on a travaillé beaucoup sur les investissements. C'est là justement que nous nous sommes dit, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de commencer cette amorce, n'est-ce pas, de la gratuité de la maternité sur l'ensemble du pays? Mais aussi, ça tombait bien parce que une fois le chef de l'État, quand il était arrivé, je crois en 2019, il fait de la santé sa priorité. Et je crois qu'il a suivi de près la dynamique et il en a fait sa priorité ou sa vision. Et avec son engagement, c'est comme ça que le programme finalement a pris corps et jusqu'à aujourd'hui, grâce au financement de la Banque mondiale, nous continuons à financer, n'est-ce pas, ce programme, parce que notre souci, c'est de diminuer drastiquement la mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo, parce que nous sommes parmi les pays où le taux de la mortalité maternelle est très élevé. Et donc c'est ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui, sous le leadership du chef de l'État, à qui nous adressons vraiment nos hommages les plus déférents, nous sommes en train de travailler en ce sens-là et nous pensons que cela devrait être l'exercice de tous les partenaires au développement, du gouvernement, mais aussi de la population.
Vous avez géré plusieurs projets multisectoriels de nutrition et santé. Comment vous expliquez ce phénomène de malnutrition chronique dans un pays aussi riche comme la RDC où tout et n'importe quoi pousse en un clin d'œil?
Voilà. Alors, il faut que tu comprennes d'abord, Alain Roux, que la malnutrition chronique, elle commence lorsque l'enfant commence sa vie. En fait, les gens ne comprennent pas que la malnutrition chronique, qu'on appelle aussi le retard de croissance, se crée principalement entre la conception et les 1000 premiers jours de la vie. Si vous suivez mes émissions, je parle beaucoup des 1000 premiers jours de la vie. Ça veut dire une fois la conception et à 2 ans, ça fait 1000 jours. C'est pendant cette période-là qu'en fait, l'être est en train de se construire, n'est-ce pas? Et un élément important qui se construit pendant cette période-là, c'est le cerveau de l'enfant, n'est-ce pas? Et tu comprends que une bonne partie de cette période, c'est d'abord la grossesse. veux dire l'enfant qui est dans l'utérus de la femme, je vais utiliser des termes terre à terre pour qu'on me comprenne, dépend de la femme. Donc la santé maternelle, ok, durant la grossesse, influence la nutrition, n'est-ce pas, du bébé. Donc une femme mal nourrie, une femme qui n'a pas une bonne santé physique, mentale, ok, ou sociale, influence, n'est-ce pas, la santé de l'enfant. Et ça continue à la naissance, n'est-ce pas, mais aussi de la naissance jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir 2 ans. Donc l'accès à l'eau potable, par exemple, l'allaitement maternel, autant, n'est-ce pas, d'actions qui doivent être menées et qui contribuent, n'est-ce pas, à la nutrition de l'enfant et principalement à la construction du cerveau, en fait, qui reste le centre de l'intelligence cognitive, le centre et même de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, il s'est fait malheureusement que, si tu regardes dans le pays, la femme après l'accouchement, donc on appelle la grossesse, le partum, ça veut dire quand on accouche, mais aussi après, on appelle le postpartum, quand vous regardez cette période-là, très peu de femmes ont des soins de qualité, n'est-ce pas, notamment en termes de CPN, de consultation prénatale. Très peu de femmes accouchent en milieu sécurisé avec un accouchement de qualité. Ok, mais aussi quand vous regardez la période qui suit après l'accouchement, ça demande à ce qu'on puisse allaiter exclusivement l'enfant au sein, ça demande à ce que l'enfant puisse bien manger. Mais imaginez-vous la condition actuelle de la femme, qui du reste d'abord à cet enfant-là, mais aussi cette femme qui est le pilier de l'économie, parfois qui doit sortir très tôt matin pour aller trouver à manger pour les autres enfants. Et dans ce contexte, n'est-ce pas, où la santé de la femme n'est pas renforcée, dans ce contexte où la santé de la femme n'est pas au cœur des interventions que nous faisons, eh bien, ça explique justement ce taux élevé de malnutrition chronique. Et d'ailleurs, les DS passés montrent que cette malnutrition a encore augmenté. Donc, si nous tenons à avoir une dépression de la malnutrition chronique, il faut d'abord mettre la santé de la femme au cœur, n'est-ce pas? Travailler sur les 1000 premiers jours de la vie. Évidemment, toutes les questions multisectorielles entrent en jeu parce qu'en fait, la nutrition n'est pas que une cible du secteur de la santé. L'agriculture, l'eau, l'élevage, la pêche, l'éducation, parce que l'éducation de la jeune fille montre qu'elle influence sur son comportement vis-à-vis des bonnes pratiques de santé. Ainsi de suite. Donc c'est vraiment dans ce paradigme-là qu'il faut travailler et arriver justement un jour à voir la dépression de la malnutrition chronique.
Docteur Michel Mouvoudi, vous avez coordonné plusieurs projets de développement et de santé, notamment avec l'Union européenne. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent que les fonds européens de développement, les fonds américains, les fonds suisses, tous les fonds étrangers ne développent pas les pays africains?
Mais ils ont raison. Moi-même, je le dis tout le temps. Aucun pays ne s'est développé avec de l'aide. L'aide vient soutenir l'action principale. Ok? Voilà, je te donne un exemple. Tes propres enfants, qui peut mieux les élever que toi-même? N'est-ce pas? Je me rappelle toujours ici des motivations qui avaient été mises en exergue en 2005 lorsque on parlait de la déclaration de Paris. Toutes les évaluations de cette déclaration de Paris montraient clairement que tant que les pays ne vont pas d'abord prendre leur leadership, tant que les financements domestiques, maisons, ne vont pas financer certains secteurs clés du développement humain comme la santé, l'éducation, la protection sociale et autres, l'aide ne peut pas venir tout faire. L'aide vient suppléer. L'aide vient apporter un plus. Vous comprenez? Aujourd'hui, regardez, on est en arrêt de l'aide américaine. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer? Mais nous n'allons pas obliger les Américains à donner forcément de l'argent aujourd'hui. Voilà un modèle qui montre que si nous ne construisons pas un financement pérenne, durable, ok, fléché sur des besoins de santé publique, ben nous n'allons pas nous développer avec des projets, nous n'allons pas nous développer avec de l'aide. L'aide, elle est importante, n'est-ce pas? Mais elle doit venir consolider une base de financement durable, domestique. Et à cela, il ne faut pas oublier, Alain, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de l'aide, mais il faut que l'aide soit coordonnée, il faut que l'aide soit alignée, il faut que l'aide puisse être axée sur les résultats, mais il faudra aussi que l'aide puisse aller sur les priorités nationales. Donc, je ne reviens pas sur les 5 principes de la déclaration de Paris, sur l'efficacité de l'aide publique au développement, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré qu'on a donné de l'aide à certains pays, dont à la République du Congo, ben les résultats qu'on a vus ne sont pas vraiment des résultats escomptés. Certes, on a des progrès, on a des pas qu'on a réalisés, mais les défis restent encore énormes et nous devons travailler ensemble pour qu'on arrive à le relever. Et ça, ça reste une responsabilité collective.
Docteur Michel Mouvoudi, nous allons aborder un autre aspect de votre vie. Vous avez une très grande expérience en gestion de pandémie, épidémie, on l'a effleuré ici. Mais je vous prie maintenant d'écouter ce témoignage que nous avons recueilli de quelqu'un qui vous connaît.
Ah bon? Ok.
Bonjour, je suis le docteur Merveille Ntsumbu, assistante principale du docteur Michel Mouvoudi. Qui est docteur Mouvoudi? Alors, je le décrirai comme un homme ambitieux, altruiste, discipliné et très ordonné. Son modèle de leadership, c'est Jésus-Christ. Il est un fervent chrétien et cela se reflète dans sa manière de diriger avec amour, intégrité et service. Que représente-t-il pour moi? Alors, le docteur Mouvoudi est pour moi bien plus qu'un chef. C'est un père, un guide et un enseignant. À ses côtés, j'apprends chaque jour. Il est comme une école à lui tout seul. Dans quelles circonstances sommes-nous connus? Alors là, nous nous sommes rencontrés lors de la première édition de sa formation en leadership et développement personnel, qu'il offre d'ailleurs gratuitement chaque samedi aux jeunes. Ce qui m'a marqué, au-delà de son talent oratoire et de la richesse de son savoir, c'est qu'il donne une véritable place à la femme. Il milite activement pour les droits des femmes et leur autonomisation. C'est ce qui m'a encore plus donné envie d'apprendre à ses côtés. Quelles sont les qualités du docteur Mouvoudi? Ce que j'admire le plus chez lui, c'est son ouverture d'esprit. Oui, il accueille tout le monde sans distinction de race, de religion ou d'origine. Il incarne un leadership inclusif et profondément humain. Que devrait-il améliorer? Ah oui, s'il y a un point à améliorer, ce serait le repos. Il travaille sans relâche entre son poste à la Banque mondiale, le groupe SID Solidarité, les formations et le coaching, au point d'oublier de se reposer, voire même de manger. Une anecdote, oui, il y en a toujours. Alors, je me souviens d'un moment amusant. Un jour après une formation, nous avions très faim, mais pas d'argent. Il m'a demandé d'acheter du pain et des saucisses, du boudin. Puis, il m'a dit en lingala, Atem, lelo to koyi, hein, lobito lia ki bien, kasita la otozolia lelo. Et nous avons éclaté de rire. Alors, si je devrais proposer une chanson, s'il fallait lui associer une chanson, ce serait Africa de Franklin Bukaka,
ah oui,
une de ses préférées.
Ah oui.
Il aime beaucoup la vieille musique, car dit-il, les chansons éducatives sont restées dans le passé. Je vous remercie.
Wow.
Merci beaucoup, docteur. Réaction,
comment vous
docteur
avez... Ben, je ne pouvais pas imaginer que entre maintenant et je sais pas quand, mais vous avez pu trouver ce témoignage. Merci beaucoup, docteur Merveille. C'est ma fille, Merveille. C'est ma fille. Je l'ai croisée lors d'une formation et une dame qui voulait faire de belles choses. Et je me suis dit pourquoi ne pas l'aider. Et aujourd'hui, c'est une dame très épanouie. Quand je la vois au volant de sa petite voiture, quand je vois comment elle me suit ce que je fais, elle s'est totalement transformée. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup bosser, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup mon pays. Je pleure un peu quand je vois d'autres pays là où ils sont arrivés. Tu sais, j'ai visité l'Afrique de l'Ouest, Alain, vers les années 2012. Récemment, j'étais là, j'ai vu comment certaines villes, hein, je vois Abidjan, je vois Cotonou, Dakar. Quand je rentre à Kinshasa, j'ai dit non, ma place est ici, je dois bosser. Quand je vois notre système de santé, lorsque je vais à l'intérieur, je me dis, je dois beaucoup travailler pour notre pays. Je dois m'engager avec les autres pour que nous puissions léguer un pays où il fera beau vivre. En fait, ce pays est le nôtre et nous devons nous battre. C'est comme ça d'ailleurs qu'avec les jeunes, je passe tout mon temps à les former, à leur donner le chemin, à leur dire comment on y arrive. Parce que après nous, ce sont les autres. Et je pense tout le temps après moi.
On a suivi en fond hein, la chanson Africa. Pourquoi cette chanson?
Non, les indépendances, tu sais, c'est Franklin Bukaka, tu sais, il est de l'autre côté, il est de Congo-Brazzaville. Chaque fois que j'écoute cette chanson, d'abord, une fois j'étais allé former les jeunes de Bukavu, et il y a une chorale. Et ici, j'ai fait un clin d'œil au docteur Adolphe Nyakasane, un ami très bien, un altruiste, un leader, qui est le coordonnateur du groupe SID Bukavu, il avait amené la chorale chanter pour moi cette belle musique. Et ça me rappelle toujours qu'en fait, les pays africains, nous avons eu nos indépendances. Mais après les indépendances, il y en a très peu qui ont compris en fait qu'est-ce que ça allait signifier. Nos pères de l'indépendance se sont battus, mais après les indépendances, 65 ans après, on n'est pas toujours en train de comprendre qu'en fait, ces pays nous appartiennent et que c'est à nous de prendre le lead. Et cette chanson me réveille toujours ce sens patriotique de dire c'est à nous de développer notre pays, c'est à nous de changer notre écosystème, c'est à nous de contribuer, n'est-ce pas, au développement du capital humain, au développement des infrastructures de notre pays. Parce que personne ne le fera à notre place.
Le grand témoin.
Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes promoteur et team leader du groupe SID, oui. Compétences, intelligence, développement, expertise et SID Solidarité, plateforme apolitique et non confessionnelle dont la vision est la solidarité pour le développement du capital humain. À ce jour, c'est plus de 50 000
200 000 aujourd'hui, on a dépassé les 200 000
plus de 200 000
à travers le monde,
plus de 200 000 jeunes, membres jeunes formés. C'est quoi SID?
Alors le SID, c'est ma vie. Je peux te dire, j'ai créé le SID partant de moi en 2009, Alain, grâce à une tentative sur internet. J'arrive à obtenir une bourse d'études, je vais faire mon master en santé publique à l'université libre de Bruxelles sans avoir payé un seul dollar. Je soumets un formulaire et on me retient. Je suis devenu master en 2010. Quand je reviens, je me dis pourquoi je ne peux pas commencer à partager, n'est-ce pas, ces opportunités aux autres. Alors j'ai commencé à faire un exercice de partage d'opportunités à tous mes amis en disant l'année prochaine, inscrivez-vous, remplissez un formulaire, vous allez partir aussi étudier. Et j'ai vu que autour de moi, il y en a beaucoup qui ont eu l'occasion d'aller se spécialiser. Et j'ai créé finalement en 2016 un mouvement qu'on appelait la RDC Solidarité. En fait, pour dire, mettons-nous ensemble, partageons ensemble. Avec le partage comme socle, n'est-ce pas, de cette vision. Et on avance. D'ailleurs, il y a un livre qui va être publié la semaine prochaine, qui parle de cette dynamique. On avance, on avance, on avance, et finalement, je décide de créer un groupe d'intelligence, un groupe de réflexion, un groupe de solidarité pour le capital humain. Ça veut dire, on travaille autour de tout ce qui concerne le renforcement des savoirs, des expériences et des compétences, notamment aussi en mettant un accent sur l'éducation. Ça, c'est vraiment ça, le groupe CID. Et parce que on ne peut pas développer un pays qu'avec l'intelligence intellectuelle, il faut aussi des valeurs. Je dirais, il faut aussi de l'intelligence émotionnelle. Le CID, c'est aussi des valeurs, notamment la bonne gouvernance, la solidarité, l'altruisme, la motivation intrinsèque au développement, une série des valeurs qu'on a définies qui nous caractérisent. Et c'est parti. Des volontaires, parce que c'est un groupe bénévole, non politique et non confessionnel. C'est parti, les gens ont commencé à nous rejoindre et nous travaillons comme ça sur des programmes d'entrepreneuriat, des programmes de bourse d'études que nous essayons de faciliter pour les membres. Nous travaillons beaucoup sur la formation, qui est notre cheval de bataille. Nous passons beaucoup de temps à organiser des formations pratiques, des formations innovantes pour les jeunes et pour nous tous, parce que pour moi, le monde évolue. Les nouvelles technologies ont transformé drastiquement notre écosystème. Si vous ne vous adaptez pas en vous formant continuellement, ben vous expirez. Et donc le groupe CID, c'est ça. Clin d'œil à Maître Héritier Ilélé, qui est mon administrateur depuis sa création et qui fait un travail formidable avec toutes les équipes, tous les coordonnateurs du groupe CID qui sont éparpillés dans le monde. Mais je vous aime, vous n'avez pas idée. Et je pense que c'est par solidarité que nous allons soulever ce pays et l'amener là où il doit être.
Et je vais vous faire une confidence, c'est grâce à Maître Héritier que nous avons pu avoir ce témoignage que vous avez suivi.
Il va me payer. Je vais demander qu'il me paye, comment on appelle les... Il est avocat, donc il connaît l'amende qui consiste à réparer quelqu'un quand on a donné une information sans son accord. Non, mais c'est un garçon formidable. Un jeune que j'ai recruté, tout jeune, voilà, il finissait ses droits. Mais quand vous le voyez aujourd'hui, c'est lui le moteur de la gestion de tout le système, y compris en international, parce que nous avons le groupe CID au Congo-Brazza, nous l'avons au Gabon, nous l'avons en Belgique, nous l'avons au Canada. Et donc, c'est une fierté de voir que j'ai des jeunes qui peuvent me remplacer tout de suite. Et si je me dis, j'arrête de faire ceci, il y a quelqu'un qui va le faire. Et mon travail dans le CID, Alain, c'est renforcer le leadership, renforcer le développement personnel, renforcer l'envie des valeurs, renforcer le capital humain des jeunes, pour que finalement cette jeunesse qui constitue la majorité de notre pays soit au centre du changement. La jeunesse, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. La jeunesse, c'est là maintenant. Il faut que cette jeunesse commence à prendre le devant et il faut qu'on y travaille et il faut qu'elle comprenne cela. Et ça, c'est ma passion et je le fais gratuitement avec mes modestes ressources parce que je me dis, il faut pas attendre. Il faut commencer avec ce qu'on a et demain, on pourra avoir encore plus.
Docteur Michel Mouvoudi, il y a beaucoup de choses à dire hein, avec vous. Votre vie, c'est un grand livre qu'on ne saura lire en 40-50 minutes. Coach en leadership, en développement et organisationnel et tout.
Surtout, j'aime bien formateur parce que mon plus grand travail qui me passionne en dehors du fait que je soigne les gens, mais c'est aussi l'enseignement. Je suis un enseignant. J'étais répétiteur d'enfants pendant longtemps pour pouvoir aussi suppléer aux frais de mes études, mais j'ai gardé ce goût de former.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes doctorant.
Oui, exactement. Je suis en train de faire ma thèse, mon PhD à Lubumbashi, en leadership d'ailleurs, dans les réformes publiques. Et je travaille beaucoup pour aider les jeunes à avancer. J'aime beaucoup enseigner, Alain. J'aime toujours que les autres soient capables de faire comme moi et même plus que moi. Et c'est comme ça que si vous suivez les témoignages des jeunes à travers les réseaux, vous allez voir que beaucoup sont dans cette transformation parce que nous qui connaissons, nous avons l'obligation de transfert de compétences. Et ça, c'est un travail que je ferai toute ma vie. Parce qu'en réalité, les leaders sont des enseignants. Si tu regardes, tous les leaders, Jésus-Christ, Mahomet, Mandela, c'était des enseignants. Parce qu'ils tenaient à ce que leur œuvre perdure. Et donc, à ce titre-là, vous n'avez pas autre choix que la transmission.
Cette émission est en train de se terminer. Mais on va terminer par une note très positive. Il y a des gens qui reconnaissent vos mérites, qui vous ont honoré. C'est notamment la chancellerie de l'Ordre National de la République démocratique du Congo qui vous a honoré en vous décernant deux médailles d'or, l'une dans la catégorie civique, l'autre dans le monde des sciences, des arts et des lettres. Mmh. Il nous reste moins de 5 minutes. Docteur Michel Mouvoudi, pourquoi de ces honneurs? Quelles étaient les motivations derrière ces
honneurs? Alors, les motivations, j'ai appris les motivations étaient liées à deux dimensions. D'abord, la première dimension, j'ai beaucoup publié, Alain, et j'invite d'ailleurs les jeunes à lire mes livres. Je suis à plus de 10 livres.
Plus de 10 livres.
Publiés, Ma vie, ma première entreprise et mon capital, Les lettres de ta réussite, d'ailleurs, que nous décortiquons avec Jean-Marc Matouaki.
Dans Métissage, hein, que je vous invite à suivre.
Exactement.
Tous les samedis et les dimanches.
Voilà, j'ai écrit un livre sur le leadership et la performance organisationnelle, Poursuivi Lean. Bref, j'ai écrit un livre sur le e-commerce. Je suis en train d'écrire un livre sur les économies positives.
Et un très bel ouvrage sur Docteur Jean-Jacques Mouyembe que nous avons commenté.
Exactement.
Dans Témoin aussi.
Donc, et justement, en faisant tout ce travail de rédaction, sans compter les articles scientifiques, les travaux que j'ai eu à élaborer durant mon master en administration des affaires, ce sont des travaux qui ont impacté la communauté. Et ça, je pense que on a vu en cela une contribution au développement de notre pays. La deuxième dimension, c'est le travail de formation de la jeunesse. Aujourd'hui, Alain, je peux pas me taper sur la poitrine, je n'aime pas trop parler de moi. Parce qu'en fait, il faut avouer que j'ai organisé plus de 80 sessions de formation à travers le pays avec mes propres moyens. C'est dur, hein, lorsqu'on est salarié, prendre l'argent de son épouse, des enfants, le peu d'argent qu'on a, payé un billet d'avion, louer une salle, former des jeunes parce que tu te dis, mais il faut le faire. Et plus de 10 000 jeunes ont été formés. Je suis en train d'ailleurs de collecter les témoignages de ces jeunes 2-3 ans après. Vous avez entendu Docteur Merveille, c'est parmi des personnes que j'ai formées. Allez sur les réseaux sociaux, je vous dis aujourd'hui, ça fait des larmes aux yeux de joie de voir que ces jeunes sont en train d'avancer. Et je pense que tout cela a permis à ce que la République reconnaisse ce travail que nous faisons. Mais pour moi, Alain, le fait de me décorer, on m'envoie encore un message fort. On me challenge encore. Parce que je deviens braqué, je deviens quelqu'un qui doit être au centre de l'excellence. Et donc, ça m'a donné la niaque, j'aime bien le dire, la rage de réussir, de faire réussir. Et je vais encore continuer à me déployer pour mon pays, pour la jeunesse de mon pays, mais aussi soutenir, n'est-ce pas, la vision de notre président à travers tous les secteurs sociaux. Et je crois que c'est très important de pouvoir travailler collectivement en ce sens-là.
Et pour terminer, un message à tous ces millions de jeunes qui vous suivent ici au pays et à l'étranger.
Alors, un message, j'ai toujours articulé mon message aux jeunes en 3 volets. Jeunes, d'abord, premièrement, développez la confiance en vous. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a eu des gens qui sont arrivés au sommet par la paresse, par des promesses, par des dons. Vous allez devenir ce que vous allez être par le niveau d'engagement que vous allez avoir en vous. Donc croyez en vous, c'est pas pour rien que vous existez. Donc évitez la main tendue, évitez de courir derrière les gens, évitez de vous asseoir par terre pour que l'on vous jette de l'argent. Évitez ça, croyez en vous, vous êtes humain comme ceux-là aujourd'hui qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui sont professeurs. Vous pouvez y arriver. Moi, j'en suis un exemple. Deuxième message, ayez une vision pour vous. Dites ce que vous allez devenir, n'est-ce pas? J'aime bien un passage biblique qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire ». Ça veut dire que tu peux demander ce que tu veux. On dit toujours « L'homme propose, Dieu dispose », mais l'homme doit proposer. Proposez ce que vous voulez être. Proposez les transformations que vous voulez, n'est-ce pas, subir dans votre vie. Proposez le rêve que vous voulez avoir, n'est-ce pas? Donc, c'est très important que les jeunes puissent avoir la vision. Et là, dans la formation, je vois que beaucoup des jeunes n'ont pas de vision. Donc, ils attendent voir un miracle se produire. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, chers jeunes, ayez une vision. Et le troisième conseil, développez des valeurs, n'est-ce pas? Aucun pays au monde ne s'est développé sans valeurs. Et deux valeurs sont fondamentales pour moi, c'est la solidarité. Soyez solidaires, partagez, soyez altruistes. Dites-vous toujours que ce que vous êtes, derrière, il y a des gens qui ont participé à cela. Et la deuxième valeur, c'est la probité, l'intégrité. Et l'intégrité, je les mets ensemble parce qu'en fait, lorsqu'on est intègre, n'est-ce pas, on devient respectueux des autres, des lois, on devient un homme dont l'honnêteté gagne par chaque action qu'on pose. Voilà, je crois qu'à ce titre-là, nous pouvons espérer, n'est-ce pas, construire une jeunesse meilleure qui va contribuer véritablement à la croissance économique de notre pays, la République démocratique du Congo et par ricochet de toute l'Afrique.
Docteur Michel Mouvou dit merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie, cher Alain Erong.
Mesdames et messieurs, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paul Badianyama qui était à la vidéo, à la technique, à Jean-Marc Matoua qui a supervisé cette émission. Moi, c'est Alain Hirung, j'étais à la présentation et à la coordination. Vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres numéros de grands témoins en allant sur www.radiocapi.net ou sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.